Bonjour Saïd Bouamama, tu es sociologue militant du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires. On est ensemble pour parler du projet de loi confortant les principes républicains qui s'appelait auparavant loi contre les séparatismes. Les mesures de cette loi ont été publiées cette semaine. Pour faire bref, il y a notamment la scolarisation obligatoire dès 3 ans, la neutralité religieuse des agents de service public, des mesures contre la haine en ligne avec la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui, des réglementations sur les lieux de culte, entre autres. Il y a eu des réactions bien avant la publication de ces mesures, donc qu'est-ce qui pose réellement problème là-dedans ?
Ce qui pose réellement problème là-dedans, c'est que en ce qui concerne tous les délits qui pourraient être liés à la haine ou au fanatisme, il y a déjà des textes de loi existants. Autrement dit, on prend prétexte d'un pseudo-danger qui serait nouveau aujourd'hui pour diffuser d'autres articles dans lesquels on attaque les libertés démocratiques. Comme par exemple l'article qui concerne le contrat d'engagement pour les associations, qui est en réalité un véritable macartisme permettant d'interdire des subventions à des associations qui seraient critiques vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de sa politique. Autrement dit, sur les aspects sur lesquels il peut y avoir danger, il y a déjà des textes de loi, et ça c'est instrumentalisé pour permettre de diffuser en contrebande d'autres articles qui eux sont nouveaux, et eux sont attentatoires aux libertés.
En tant que sociologue, est-ce qu'il y a une réalité, enfin je trouve intéressant de poser cette question, est-ce qu'il y a une réalité de l'islamisme radical ? Je crois que c'est Jean-Michel Blanquer qui avait parlé de structures salafistes clandestines, on parle beaucoup de séparatisme, mais quelle est la réalité sociale de ce prétendu repli communautaire ?
Il y a un vrai problème sur une partie de notre population extrêmement minoritaire qui touche une partie mais absolument minoritaire des habitants des quartiers populaires. Mais la question qui nous est posée, c'est que même sur cette extrême minorité, le débat n'est jamais posé en termes de cause. Autrement dit, il y a un interdit de la réflexion sur pourquoi des jeunes aujourd'hui qui sont nés en France, qui ont grandi en France, peuvent en arriver à des comportements dans lesquels ils se tuent et ils tuent d'autres personnes. Ce refus du débat sur les causes, il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre parce qu'en réalité, sociologiquement, les causes, elles sont de deux sources possibles. La première source des causes est liée, c'est mis souvent en avant dans les médias, dans ce que les médias appellent l'importation de conflits qui viennent de l'extérieur. Autrement dit, en réalité, la question qui est posée, c'est les guerres dans lesquelles l'État français est investi aujourd'hui, est investi et qui provoque en retour, effectivement, le sentiment de, pour certains, parmi les plus fragiles, de devoir passer à l'acte. Et donc ça pose la question de la politique internationale de l'État français. Que fait-il dans le soutien de la guerre au Yémen ? Que fait-il en Syrie ? Que fait-il au Mali, etc. La France est un des pays pour lesquels l'armée a un des plus grands nombres de conflits au monde. Et c'est particulièrement inquiétant, et ça n'est pas du tout un hasard que l'on se retrouve avec une France qui peut être visée par des groupes extérieurs. Et donc poser la question de la politique internationale permet de nous interroger sur ce que nous faisons à l'extérieur. Mais ça n'est qu'une des causes. L'autre cause que la sociologie, que plusieurs travaux sociologiques ont mis en cause, c'est la question de l'état d'une partie de notre société, la dégradation des conditions d'existence d'une partie de notre société. Et en réalité, on a toute une partie de la société qui est extrêmement fragilisée par la pauvreté, extrêmement fragilisée par la précarisation, et qui de surcroît, depuis plusieurs décennies, voit des débats médiatiques, des débats politiques propulsés par en haut, expliquer leurs difficultés par des causes culturelles ou des causes religieuses, et avec des discours anti-musulmans qui peuvent amener les plus fragiles d'entre eux, j'insiste sur l'aspect extrêmement minoritaire, des plus fragiles d'entre eux, de se fourvoyer dans de fausses perspectives d'action. Autrement dit, on a d'un côté une politique internationale agressive qui met le focus sur la société française, et d'autre part une société française qui se délite du fait des politiques néolibérales, de l'abandon des quartiers populaires. Pour ajouter à cela la manière dont a été gérée la pandémie et la pauvreté qui s'est rajoutée dans les quartiers populaires, oui, il y a un vrai problème, mais pour parler du problème, on ne peut pas se contenter d'agiter la question de l'islam ou de l'islamisme, il faut poser la question de l'état de notre société et de l'état des politiques économiques et des conséquences sur la société. Et donc, le problème n'est pas sur existerait-il ou non un problème islamiste en France. La question qui est posée, même si ça concerne une, deux ou trois ou 10 personnes ou 100 ou 1000, la question qui est posée, c'est quoi les causes de cela ? Or, là-dessus, si vous regardez toute la communication gouvernementale, on n'a rien, mais strictement rien, et on a même un interdit de réflexion sur les causes. Tous ceux qui ont essayé de penser sur les causes ont été accusés d'être des complices de l'islamisme. Autrement dit, essayer de comprendre la réalité est aujourd'hui considéré comme de la complicité. C'est un interdit de la pensée.
Oui, et ça fait écho à l'interdiction du collectif contre l'islamophobie en France. Est-ce que c'est aussi emblématique de cette censure et du contrôle institutionnel des associations dont tu as parlé ?
Absolument. Vous savez, le CCIF, pour ceux qui connaissent un peu, ne peut vraiment pas être assimilé à la moindre dérive islamiste. Il est reconnu par des instances internationales au niveau de l'Union européenne comme au niveau de l'ONU. Il s'est porté partie civile sur un certain nombre de procès concernant des actes islamophobes, des actes anti-musulmans, et a permis un certain nombre de décisions de justice. Les premières décisions de justice condamnant le racisme anti-musulman ont été obtenues grâce à l'action du CCIF. Et si l'on regarde de surcroît la lettre de motivation et les arguments de motivation pour interdire le CCIF, on a uniquement, il n'y a aucun fait avéré qui est mis à l'intérieur, il y a uniquement l'idée que ça pourrait renforcer les idées islamistes. Donc on a là quelque chose de nouveau qui est le procès d'intention. Autrement dit, désormais, ce ne sont plus les actes posés qui peuvent amener une condamnation, mais l'intention supposée de la personne qui va être considérée comme étant un délit. Si l'on se pose la question de l'acceptation de cette logique, eh bien, inévitablement, pour d'autres personnes, cette même logique aboutira à banaliser le délit d'intention. Demain, quelqu'un qui critiquerait le capitalisme, on pourrait lui dire, il se prépare à faire des actes de terrorisme d'extrême gauche. Quelqu'un qui considérerait que la politique économique du gouvernement est une politique erronée pourrait être considéré comme contradictoire avec les valeurs de la République. Autrement dit, on n'a plus besoin de faits pour inculper quelqu'un, mais l'intention suffit. Et c'est cela qu'il y a dans la lettre de motivation de l'interdiction du CCIF. Donc on est cela sur un passage particulier qui est le passage au maccartisme en réalité. Hein. C'est une logique maccartiste, je rappelle, pour les auditeurs. Le maccartisme, ça a permis aux États-Unis pendant plusieurs décennies la poursuite de personnes, l'interdiction d'accès à des professions, l'interdiction d'exercer certains droits, uniquement sur le fait qu'ils étaient supposés être des agents de l'Union soviétique ou des communistes. Le simple fait d'avoir une idée communiste était considéré comme étant dangereux pour la nation. Et c'est cela qui commence, alors bien entendu pas dans les mêmes formes, mais il ne faut pas non plus comparer des choses qui seraient incomparables, mais la logique est la même. La logique est la même, c'est l'intention supposée qui vaut délit.
Il y a quelque chose que je trouve peut-être assez emblématique, qui peut expliquer des choses, c'est que la ministre au logement, Emmanuelle Wargon, avait parlé de rompre avec les logiques de ghetto. Et finalement, la question de la mixité sociale a été totalement écartée du texte.
Absolument, mais ça fait partie de la même logique qui est « parle-t-on des causes ou parle-t-on uniquement des conséquences ?» Parle-t-on du réel ou invente-t-on des problèmes ? Je voudrais juste donner un exemple. Dans l'argumentaire de la loi, il est parlé des certificats de virginité. Interrogez n'importe quel médecin, interrogez n'importe quel les quelques travaux qui ont tenté de quantifier cela. Cela est complètement marginal, ça n'existe quasiment pas, bien entendu ça existe, hein, mais ça n'existe quasiment pas, et pourtant c'est un des argumentaires de la loi. Autrement dit, est-ce qu'on est dans l'analyse des causes d'une situation, et effectivement là ça obligerait de poser la question des inégalités, ça poserait la question de la ghettoisation, pourquoi lorsqu'on a certains noms, eh bien on a des chances d'être affecté en termes de logement social dans certains territoires, pourquoi lorsqu'on fréquente telle école, on a des chances, on a plus de chances d'un échec scolaire, etc. Mais ça, on ne veut pas en parler. Donc la question de l'égalité territoriale, la question de l'égalité face au service de la République n'est pas posée. Et du coup, on en conclut à l'existence d'un communautarisme. Lorsque l'on ne parle pas des causes, le communautarisme en question, entre guillemets, il est imputé à qui ? Si ça ne vient pas des politiques sociales, si ça ne vient pas des inégalités, de qui cela peut-il venir ? Cela ne peut venir, du coup, que des personnes, elles, qui volontairement serait dans un repli communautaire. On est donc dans une politique qui vise à imputer à des victimes d'une inégalité et discrimination la responsabilité de celle-ci.
Je reviens sur la loi et notamment sur la temporalité qui est mise en œuvre par le gouvernement, puisqu'on annonce le vote de la loi en 2021, à la fin de 2021. Alors évidemment, ça renvoie ou ça interroge sur la stratégie politique et notamment sur le fait de faire de l'œil à l'électorat du Rassemblement national en vue des élections présidentielles. Est-ce qu'on peut voir autre chose ou uniquement cette stratégie-là, électoraliste ?
Ah non, il y a cette stratégie-là, mais cette stratégie est aussi, elle était déjà ancienne. Ce qu'il y a de nouveau, c'est on est là sur la préparation immédiate des présidentielles. Voilà un gouvernement qui nous a habitués à aller vite. Un gouvernement qui n'a pas hésité sur certaines réformes à passer par les ordonnances. Et qui l'a nous dit, il y a danger islamiste, il y a péril islamiste dans ce pays, il y a danger immédiat, mais il faut prendre près d'un an de débat avant d'adopter cette loi. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Comment expliquer cette contradiction entre un gouvernement qui, d'un côté, privilégie la vitesse des réformes pour éviter les contestations, qui d'un autre côté parle d'un danger absolu, immédiat, etc., et qui pourtant prend près d'un an de débat sur cette question-là. Mais tout simplement, ça permet de changer, de passer de l'agenda réel des habitants de ce pays, un agenda qui est posé aujourd'hui dans les manifestations, un agenda qui est posé par la paupérisation. C'est l'agenda, les premières préoccupations des Français aujourd'hui, ça va être la conséquence de cette pandémie au niveau économique, près d'un million de chômeurs supplémentaires sont annoncés. On a dans les quartiers populaires des situations explosives dans lesquelles on a à la fois des comportements d'autodestruction et on n'a pas encore fini de voir les conséquences psychologiques de ce que nous venons de vivre. Une crise qui a commencé avant la pandémie, qui s'est aggravée avec la pandémie. Donc on a comme premier point de l'agenda spontané, immédiatement, réel, la question de la pauvreté, de la politique économique, etc. Et d'un autre côté, eh bien cette loi va permettre de focaliser sur la question d'un pseudo-danger musulman, d'un pseudo-danger islamiste, pendant près d'un an. Il s'agit donc bien de modifier l'ordre de priorité dans les agendas pour parler d'une question qui en masque une autre. En réalité, nous sommes devant un débat écran. Cette loi sur le séparatisme est un débat écran qui va permettre toute l'année d'avoir dans nos médias des pseudo-experts, des conférenciers d'extrême droite, des soi-disant spécialistes, venir nous parler du péril islamiste, venir nous parler d'une urgence sur ces questions-là, et donc évincer les autres débats de notre société, évincer les véritables questions de cette société. Pourquoi tout cela ? Qu'est-ce que le gouvernement a à gagner à, pendant un an, agiter ce chiffon-là ? Eh bien, tout simplement, que si ce temps réussit, si nous ne sommes pas capables de l'arrêter, eh bien, un tel débat ne peut que déboucher sur un choix contraint au moment des présidentielles. Il s'agit de préparer l'opinion à un débat binaire, Macron-Le Pen, et à un choix binaire au moment de la présidentielle, Macron-Le Pen. C'est la seule manière, compte tenu de la crise de légitimité, compte tenu de l'isolement massif de Macron aujourd'hui, compte tenu de la colère contre ce gouvernement, c'est la seule manière pour lui d'envisager d'être réélu. Et il n'hésite pas pour cela à jouer avec le feu, autrement dit à cliver la société, à diviser la société, à diffuser de la peur. Or, nous savons très bien que si cette peur prend, si ce gouvernement réussit dans cette stratégie, ça va être catastrophique pour notre société, puisque ça va créer des clivages au sein des classes populaires, et ça va créer une montée du racisme et de l'islamophobie. Donc voilà un gouvernement qui n'hésite pas à courir le risque de diffuser une logique de guerre civile uniquement pour être réélu dans un contexte de crise de légitimité. Il ne peut plus être réélu sur son programme, il ne peut pas être réélu sur son bilan, et donc il reste à être réélu sur la peur, l'angoisse, la diffusion de la peur.
Et alors, justement, jusqu'à présent, la menace fasciste en France, elle est le plus souvent incarnée par l'extrême droite. Et à chaque fois se pose l'alternative républicaine ou les fronts républicains qui se posent contre justement cette extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution qui ferait qu'au final, la fascisation viendrait plutôt de, on va dire, cette frange libérale du capitalisme, technocapitalisme ?
Il faut tirer les leçons de l'histoire. Et effectivement, l'épisode fasciste de l'avant Seconde Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale nous a montré une des formes du fascisme. Mais le fascisme, c'est d'abord, en premier lieu, le gouvernement autoritaire du capitalisme pur. C'est lorsque le capitalisme, devant une crise, veut revenir à sa logique pure, qu'il a besoin d'autoritarisme, qu'il a besoin de la violence d'État pour imposer les mesures de régression sociale. Dans les années 30, ça a pris la forme d'un type de fascisme. Mais ça, c'est une forme du fascisme. Le fond du fascisme peut prendre des visages particulièrement différents, et donc on peut avoir aujourd'hui effectivement une fascisation, nous y sommes déjà dans la fascisation, qui débouche sur un fascisme, s'il n'y a pas de réaction, qui prenne des formes on va dire plus civilisées, des formes couvrant des droits de l'homme, se couvrant des droits démocratiques. Autrement dit, autant le racisme nazi était un racisme ouvert, explicite, etc., on peut avoir une fascisation qui s'accompagne d'un racisme d'irrespectable, d'un racisme pour défendre les valeurs de la République, d'un racisme pour défendre une pseudo-acquis républicain. Donc attention, ne confondons pas forme et fond du racisme. La forme est toujours fonction de l'époque, le fond est fonction des besoins. Or, nous sommes, par contre, sur le niveau des besoins, dans une situation équivalente à celle des années 30, où on avait une classe dominante devant une crise économique énorme et devant la montée des contestations sociales. Il faut se rappeler que ça vient après le Front populaire. Et donc, avec une montée des contestations sociales, et qui, pour réagir à cette montée des contestations sociales, n'hésitera pas, si nous ne sommes pas capables de nous y opposer, à utiliser les moyens de la violence extrême. Et donc la fascisation peut venir d'en haut. Elle peut venir d'en bas, mais elle peut venir d'en haut. Et aujourd'hui, Macron, à bien des égards, a accéléré le processus de fascisation.
Saïd Bouamama, je rappelle que tu es sociologue et que tu t'intéresses particulièrement aux sociologies des dominations. Toujours sur ces questions-là, concernant les rapports de domination à l'œuvre dans la société, est-ce que cette loi-là marque une espèce de continuité avec une tendance de fond de l'État ? Ou bien est-ce qu'il y a quand même une rupture avec l'inscription dans le marbre de la loi de mesures beaucoup plus ouvertement islamophobes ?
L'erreur serait de répondre soit par la continuité totale, soit par la rupture totale. En réalité, le contexte est celui de 4 décennies dans lequel on a commencé à passer d'un racisme anti-maghrébin à de l'islamophobie. Et ça s'est accéléré depuis 2 décennies, et on a eu, avec Sarkozy, avec Valls, etc., déjà un certain nombre de propos et d'actes islamophobes. Donc tout n'est pas nouveau dans l'islamophobie aujourd'hui. Il y a eu une continuité qui s'est construite petit à petit et qui a préparé la situation actuelle. Par contre, le projet de loi sur le séparatisme, même s'ils en ont changé le nom, passe un cap. Il passe un cap parce qu'il donne des moyens légaux d'intervenir sans qu'on puisse attaquer l'État, puisque ça sera devenu légal. Je prends juste l'exemple que je donnais tout à l'heure. Le contrat d'engagement sur les valeurs de la République est un contrat d'engagement qui va permettre à l'État de refuser à toute association qui serait critique des subventions, et qui va permettre aussi, seconde nouveauté dans cette loi, on va pouvoir imputer à une association les actes d'un de ses membres ou de deux de ses membres, etc. Autrement dit, là nous sommes dans une logique encore autre, qui est la logique de la punition collective. Or, la dernière fois que nous avons vu historiquement cette logique de la punition collective assumée par un État, eh bien, c'était soit à l'époque coloniale, où une famille entière pouvait être inculpée pour les actes d'un de ses membres, ou un village entier pouvait être puni pour les actes d'un de ses membres, ou la Seconde Guerre mondiale, où effectivement on était complice de ne pas avoir dénoncé, et tout un groupe pouvait être complice de ne pas avoir dénoncé. Autrement dit, là, on a des passages qualitatifs nouveaux. Hein. C'est pas seulement la suite du passé, c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc c'est à la fois une continuité, mais là, avec une accélération et une légalisation de l'islamophobie d'État. Donc on est aujourd'hui dans une période où l'État n'hésite plus à assumer une islamophobie d'État.
Alors pour bien comprendre, j'aimerais qu'on essaye d'expliquer une notion, c'est que vous parlez d'une gestion coloniale de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de logique de domination ?
Ça remonte à l'époque coloniale. Vous savez, la colonisation a affirmé à la fois que les colonisés étaient français, mais n'étaient pas des Français comme les autres. Et autrement dit, ils étaient sujets français, mais pas citoyens français. Pour qu'un sujet puisse devenir citoyen français, il fallait qu'il renonce à son culte. Et ça, c'était une république qui disait ça. Donc on voyait bien que la république laïque n'appliquait pas la laïcité dans ses colonies, alors même qu'elle disait qu'il n'y avait qu'une seule France, etc. Là, on a un gouvernement qui nous dit, il va falloir que, y compris en donnant des ultimatums, il va falloir que l'islam de France se modifie, se réforme, et on va vérifier que c'est conforme à la laïcité. Autrement dit, l'État s'ingère dans la politique d'un culte. Or, la laïcité historique est une laïcité qui insiste justement sur le fait que l'État ne s'ingère dans aucun culte, que l'État est indifférent au culte, et que l'État ne soutient et subventionne aucun culte. Là, on passe à autre chose. On passe à autre chose puisqu'on passe à l'idée que l'État va dire à un culte comment s'organiser. On est dans la rupture avec la laïcité. Si une association cultuelle contredit les lois de la République, qu'elle soit sanctionnée à partir des lois existantes, et non pas à partir d'une organisation qu'on lui imposerait et que l'État imposerait. Parce que, d'une part, ça veut dire qu'on rompt avec le principe de laïcité, et d'autre part, ça veut dire qu'on stigmatise une religion qu'on considère comme étant à part des autres. Et donc là, on a effectivement, là aussi, quelque chose de nouveau.
Alors, quelles sont les perspectives de lutte qu'il y a, et notamment dans les quartiers populaires, ou enfin, même ailleurs?
Moi, je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer en termes de mobilisation. Un des problèmes qu'a ce gouvernement, c'est l'ampleur des mobilisations. Ça n'a pas cessé depuis les Gilets jaunes. Entre le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, le mouvement contre les violences policières, aujourd'hui le mouvement contre la loi de sécurité globale, et je l'espère, en même temps, contre la loi sur le séparatisme, on a des dizaines de milliers de personnes chaque semaine dans les rues, etc. C'est donc, on n'est pas tétanisé face à un gouvernement, il y a du monde. Ce qui est certain également, c'est qu'il n'y a pas autant de monde que ceux qui sont en colère. Il n'y a pas autant de monde que ceux qui sont en colère, tout simplement, par exemple, sur le rassemblement de demain, nous, dans les quartiers populaires où nous avons diffusé, on sent très bien que les gens sont marqués par deux sentiments. Un premier sentiment qui est la colère et la révolte par rapport à ce texte de loi, et un second sentiment qui est la peur, qui est la peur. Et donc, il est vraiment important que le maximum de personnes continuent à se mobiliser, visibilisent le refus de cela, parce que c'est ça qui peut faire reculer la peur. En réalité, une très grande majorité des habitants du quartier populaire aujourd'hui sont prêts pour la mobilisation. Il faut briser cette peur, et cette peur, elle passe par le fait que l'on ne divise pas les attaques actuelles. Il y a beaucoup de monde sur la loi contre la sûreté globale à juste titre, et nous y sommes également, mais il faut qu'il y en ait autant pour cette loi sur le séparatisme. Sinon, cela va être perçu comme on se mobilise pour soutenir le droit d'expression des journalistes, puisque les médias ont limité la loi sur la sûreté globale à la liberté d'expression des journalistes, et on ne se mobilise pas lorsque ce sont les musulmans réels ou supposés qui sont attaqués. Et donc la question qui nous est posée, c'est la question de la cohérence. Je pense que ça va jouer dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on sera capable d'être aussi nombreux dans la loi sur le séparatisme que sur la loi contre la sûreté globale? C'est une vraie question qui laissera des traces. Et si nous ne sommes pas capables, eh bien on s'orientera inévitablement, je suis pas devin, je peux pas dire dans un mois, dans deux mois, dans six mois, dans un an, vers des révoltes de type nihiliste, c'est-à-dire que la situation est tellement catastrophique dans les quartiers que ça peut exploser sous une forme ou sous une autre, comme en novembre 2005, comme de manière éparpillée. En tout cas, la violence qui ne s'exerce pas contre les causes s'exerce toujours contre les personnes.
Ça veut dire qu'il y a une espèce d'ultimatum en termes de convergence pour le mouvement social?
Je pense que, effectivement, nous avons besoin de convergence aujourd'hui, et que ne pas le faire, ce serait courir le risque que nos mobilisations actuelles deviennent inefficaces par division.
Merci beaucoup Saïd Bouamama. Je rappelle que tu es sociologue, militant antiraciste et militant membre fondateur du Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires.
Merci.